Je voudrais commencer tout de suite avec les passages bibliques. Vous avez certainement remarqué que mon cœur a lâché hier soir. J'ai dû m'accrocher soudainement et c'est pourquoi j'ai arrêté brusquement. Je ne me suis pas encore remis de mon dernier voyage. Le décalage horaire de 7 heures et la différence de climat, et vous pouvez imaginer comme cela me bouleverse chaque fois que je prêche. Alors les gens ne doivent pas dormir, n'est-ce pas? Cela me saisit si puissamment à l'intérieur. Je n'y peux rien. Je m'efforce à chaque fois de parler lentement, mais cela ne s'arrête probablement pas là. C'est à vous de juger. Tout d'un coup, je suis complètement saisi et submergé. Et ça continue comme ça. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Nous commençons par la glorieuse parole de Romains, le chapitre 3, et nous revenons ensuite à la résurrection. Romains, chapitre 3, du verset 21 jusqu'au verset 26. Une question. J'ai l'impression d'être dans un angle mort. Je n'entends pas si les haut-parleurs sont assez forts. Je veux dire, l'interphone, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela, c'est bien? S'il vous plaît, le volume est trop faible. J'ai aussi cette impression, mais je ne peux rien y faire. Frère, faites-moi plaisir, vous qui êtes là dans la salle de régie, allumez et la chaîne correctement. Réglez le son correctement. Si quelqu'un trouve que le son est trop fort, qu'il lève la main. Mais je préfère que tout le monde entende bien et si nécessaire, un peu trop fort, mais pas trop bas. Êtes-vous d'accord avec cela? Il y a en effet quelques malentendants et nous voulons en tenir compte. Et c'est pourquoi le volume doit être correct. Je lis dans Romains 3, le verset 21. Mais maintenant, indépendamment de la loi, et pourtant attesté par la loi et les prophètes, la justice de Dieu a été révélée. À savoir, la justice de Dieu qui est là pour tous par la foi en Jésus-Christ et qui est accordée à tous ceux qui croient. Car ici, il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire que Dieu leur donne. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est accomplie en Jésus-Christ. Avons-nous compris cela? C'est en lui que Dieu, le verset 25, a créé dans son sang le moyen d'expiation efficace par la foi, afin de montrer sa justice, parce que les péchés commis auparavant pendant les temps de la longanimité de Dieu étaient restés impunis jusqu'alors. Il a donc voulu montrer sa justice dans le temps présent, le verset 26 de Romains 3, afin de paraître lui-même juste et de déclarer juste tout homme qui a la foi en Jésus. Qui a la foi en Jésus. C'est un passage clé de la Bible en ce qui concerne la rédemption et la justification. La foi en Jésus-Christ apporte la justification, une rédemption totale, apporte fondamentalement le salut, donc tout le salut total de Dieu, tout le mal qui a été fait a été réparé. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle. Si tu cherches ta propre justice, tu auras beaucoup à faire et tu ne la trouveras pas. Mais si tu peux croire de tout ton cœur que Jésus-Christ a satisfait à toutes les exigences de la loi, qu'il a pris sur lui le châtiment de nous tous et qu'il a donné sa vie et son sang en expiation. Il y a eu un grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité sur la croix à Golgotha. Et nous le croyons de tout notre cœur. Dans notre pays, il y avait autrefois le passage en cas de doute, faute de preuve, l'acquittement doit être déclaré. Nous n'avons pas été acquittés, faute de preuve. Nous étions coupables. Nous avions péché. L'acquittement n'a pas été prononcé à faute de preuve. La preuve était là. La condamnation avait été prononcée de manière juste. Mais l'acquittement est un acquittement divin. À savoir l'acquittement de ceux qui ont été reconnus coupables. Avez-vous déjà entendu dire qu'un homme qui n'a pas été condamné devrait être acquitté? Cela n'existe pas. Il y a d'abord la condamnation, puis l'acquittement. La plupart des croyants n'ont pas encore compris ce qu'est en fait la grâce. Qui est gracié? Qui reçoit la grâce? Quand on entend quelque part que quelqu'un est coupable et qu'il est en prison et que soudain, quelqu'un est généreux et dit qu'il sera gracié. Supposons que quelqu'un a été condamné à la prison à vie, qu'il ait purgé 10 ans et que tout à coup, on fasse appel à la clémence et que la personne soit graciée. Qui a été gracié dans ce cas? Celui qui a été déclaré coupable. Celui qui a été condamné légalement. C'est lui qui a été gracié. Nous étions tous coupables. Nous avons tous été légitimement condamnés par la loi de Dieu. Et il a dit dans l'Écriture que quiconque est coupable d'une seule chose était coupable de toutes. Car toute la loi de Dieu sortait de la même bouche de Dieu. La plupart des croyants arrêtent leur grâce là où la grâce de Dieu commence seulement. Avez-vous entendu cela? Pour la plupart des croyants, la grâce et le pardon s'arrêtent là où, en fait, ils commencent avec Dieu. C'est-à-dire, donc, la grâce et le pardon, là où il commence au pluriel, avec Dieu. C'est là, c'est-à-dire, lorsqu'un homme est devenu coupable, c'est généralement là que la grâce s'arrête chez les croyants, n'est-ce pas? C'est là qu'elle commence chez Dieu. La grâce est encore une grâce. Et cela aussi, nous devons le comprendre. Comme à Moïse, le Seigneur a dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce. Et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. » Laissez-moi lire de Romains 4, le verset 7 à 12. Romains 4, du verset 7 à 12. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Cette béatitude, le verset 9, s'applique telle seulement aux circoncis ou aussi aux incirconcis? Car nous disons, la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Dans quelles circonstances? Donc, cette imputation a-t-elle eu lieu? Quand il était déjà circoncis ou quand il était encore incirconcis? Eh bien, pas quand il était déjà circoncis, mais quand il était encore incirconcis. Maintenant, écoutez bien. et le signe extérieur de la circoncision, il le reçoit alors comme un sceau de la justice de sa foi qu'il possédait dans l'état d'incirconcision. Il devait ainsi devenir le père de tous ceux qui croient sans circoncision, afin que la justice leur soit imputée. Et le père des circoncis, c'est-à-dire de ceux qui non seulement lui appartiennent en vertu de la circoncision, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi que notre père Abraham possédait déjà à l'état incirconcis. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec de telles explications. Pour moi, elles sont précieuses. Dieu a pourvu à tout. Abraham a été justifié devant Dieu avant de recevoir la circoncision. Mais la circoncision était nécessaire pour rappeler la chute, le péché originel. Avons-nous compris pourquoi la circoncision était nécessaire? Pourquoi Dieu l'a-t-il instaurée? Pour rappeler où l'alliance avait été rompue, afin que l'alliance soit restituée. Et les hommes de Dieu ont ressenti dans leur chair, afin que l'alliance soit restaurée, et les hommes de Dieu ont ressenti dans leur chair en quoi consistait réellement la chute. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais je voudrais lire dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. N'est pas juif celui qui l'est visiblement. Et la circoncision ne consiste pas dans ce qui se fait extérieurement dans la chair. Non. N'est juif que celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision doit s'accomplir dans le cœur par l'esprit. En esprit et non extérieurement, selon la lettre, la louange d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Extérieurement, les Juifs pouvaient se vanter d'être circoncis. Et nous verrons que Dieu avait justement convenu que la circoncision était un signe d'alliance avec Israël. Ce n'est pas une mince affaire. La circoncision était un signe direct de l'alliance Dieu avec Israël. Une fois de plus, nous nous demandons pourquoi il devait en être ainsi. Nous y viendrons dans un instant. Je vais maintenant lire un extrait de Galates. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, du verset 14 au verset 16. Ici, il est écrit, Galates 6, du verset 14 au verset 16, c'est bien. Mais qu'il ne me vienne pas à l'idée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne comptent, mais seulement une nouvelle création. Et tous ceux qui marcheront selon cette norme, que sur eux vienne la paix et la miséricorde divine sur l'Israël de Dieu. Non pas la semence d'Abraham selon la chair, mais la semence de la foi. Et à ce sujet, je lis dans Galates, la parole souvent citée, Galates 4, verset 28. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Et parce que nous sommes enfants de la promesse, nous croyons la parole de la promesse. Et parce que nous croyons la parole de la promesse, c'est pourquoi l'esprit de la promesse vient sur nous pour rendre vivante en nous la parole reçue. Alléluia! C'est l'ordre divin. C'est l'évolution divine avec nous tous. Si nous continuons à lire, nous allons pour cela à Genèse 17. Pour vous le montrer très clairement, Genèse 17, versets 9 à 14. Il est écrit ici. Puis Dieu dit à Abraham, Genèse 17, verset 9, « Quant à toi, tu garderas l'alliance avec moi, toi et ta descendance après toi, génération après génération. Mais voici mon alliance que vous observerez et qui sera entre moi et vous et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Tout garçon, à l'âge de 8 jours, recevra chez vous la circoncision. Génération après génération, ce sera le signe de l'alliance entre vous, entre moi et vous. Il a relu la fin du verset 11, maintenant il revient encore sur le verset 12. Tout garçon, à l'âge de 8 jours, recevra chez vous la circoncision, génération après génération. Celui qui est né dans la maison, ainsi que le serviteur acheté à prix d'argent à un étranger. Quiconque, même s'il ne fait pas partie de ta descendance, le serviteur né dans ta maison et celui que tu as acheté à prix d'argent seront circoncis. Cette circoncision sera le signe de mon alliance dans votre corps, un signe d'alliance éternelle. Mais un mâle incirconcis qui n'a pas été circoncis dans la chair de son prépuce, un tel homme sera retranché du milieu de son peuple. Il a rompu mon alliance. Remarquons sur quoi Dieu a mis l'accent. Dans le peuple d'Israël, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était une chose très claire pour le peuple d'Israël. Il n'y avait aucune question à ce sujet. Mais ici, Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et il devait montrer en quoi consistait la transgression, la rupture de l'alliance. En quoi consistait la transgression pour indiquer que le dommage causé devait être réparé. Je poursuis la lecture de Genèse 17, 22 maintenant. Genèse chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 24. Lorsque Dieu eut achevé son entretien avec Abraham, il monta au ciel, loin d'Abraham. Alors, Abraham prit son fils Ismaël et tous les serviteurs nés dans sa maison, ainsi que tous les serviteurs qu'il avait achetés à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison. Et il les circoncit ce jour même, comme Dieu le lui avait ordonné. Amen. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous ne pouvons pas répondre, Seigneur, je le ferai quand le moment sera venu. À l'heure même, au jour même, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, nous devons l'écouter et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande. Demain, cela peut s'estomper. Après-demain, il peut être trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'heure de la visitation divine. Je voudrais lire les versets 10 et 14 de Genèse 18. S'il vous plaît, je vous en prie, souvenez-vous de la visite du Seigneur Dieu à Abraham, puis de la circoncision et ensuite de la promesse. La visite, la circoncision et ensuite la promesse. Genèse 18, versets 10 et 14. Celui-ci dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine à cette époque. Ta femme Sarah aura alors un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Peut-être que nous lisons aussi le verset 13 et ensuite le verset 14. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en pensant, serais-je encore capable de devenir mère, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour l'Éternel? Au temps indiqué, dans un an, je reviendrai vers toi. Alors Sarah aura un fils. Vous savez qu'elle a nié, même devant le Seigneur. Et c'est là que frère Branham dit que Dieu l'aurait tué sur le champ. En effet, car elle avait fait passer le Seigneur pour un menteur. Le verset 15 dit, alors Sarah nia et dit, je n'ai pas ri. Imaginez, oser dire cela en face du Seigneur. En face du Seigneur. Mais alors frère Branham dit, à cause d'Abraham, le Seigneur Dieu a épargné Sarah. À cause de Christ, Dieu nous a épargnés. Combien de fois Dieu nous aurait-il donné... Combien de fois Dieu nous aurait abandonnés, mais nous aurait laissés. Mais ensuite, il est écrit, même si vous êtes infidèle, Dieu reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Mais ici, voici la parole de la promesse. Et c'est justement sur ce point que frère Branham a si fortement insisté, que le même ministère est la révélation des pensées des cœurs, comme il l'était alors au jour d'Abraham, ou comme cela s'est passé alors. Cela s'est passé par le ministère de frère Branham. Et cela devait être le dernier signe, car c'était aussi le cas dans le ministère de Jésus-Christ. Il pouvait dire, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. » Il pouvait dire à la femme au bord du puits, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. » Il pouvait dire, « Allez à la ville, il y a là quelqu'un à qui vous direz, chez toi, nous ferons le repas, nous tiendrons le repas. Et l'homme à qui vous devez vous adresser porte une cruche d'eau. » Là, ce sont les femmes, n'est-ce pas, qui portaient les cruches. Ici, c'est un homme à qui il faut s'adresser. C'est à un homme qu'il faut s'adresser, un tel homme, car c'est un homme raisonnable. C'est dans sa maison que nous allons faire le repas pascal, le repas de la Pâque, un ordre sobre. Le Seigneur pouvait dire, allez là-bas, déliez l'ânesse et l'ânon et amenez-les-moi. Et si le propriétaire vous demande ce que vous faites, dites-lui que nous les reverrons dès que l'affaire sera réglée. Dites-lui, le Seigneur en a besoin. En principe, il pouvait dire n'importe quoi, il pouvait dire tout, n'est-ce pas? Et les scribes ont justement profité de ce service, de ce ministère, pour dire qu'il est de connivence avec Belzébuth. Il a même percé à jour leurs pensées secrètes et a dit: pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Qu'est-ce que c'était? C'était la même révélation, le même ministère qu'au jour d'Abraham, au jour de Jésus-Christ, comme un signe du Messie, un signe du Fils de l'homme. De nos jours, cela s'est répété. C'est dans cela que le ministère de Frère Branham était différent de tous les autres ministères. Combien de fois des gens des différents pays du monde sont venus, ils se tenaient dans la ligne de prière, Frère Branham ne les avait jamais vus. Il leur disait: tu viens de là et de là, de telle ville et de telle autre, de tel pays et tu as ceci et cela. Le 7 mai 1946, l'ange de l'Éternel lui a indiqué les différents passages bibliques et lui a fait remarquer que c'était le dernier signe pour l'Église, celui où les esprits, celui par lequel les esprits se diviseraient. Les uns disaient c'est de Dieu, les autres ont dit ce n'est pas de Dieu. Et c'est ainsi qu'une séparation a eu lieu et qu'elle a lieu encore aujourd'hui. Dieu veille à ce que cette séparation soit accomplie par la parole et l'esprit et non pas par un homme. Je voudrais lire Exode 4, Exode chapitre 4, pour vous montrer que lorsque Moïse a été mandaté à faire sortir le pays d'Égypte, a été chargé de faire sortir le pays d'Égypte, le peuple d'Israël, pardon, a été chargé de faire sortir le peuple d'Israël. Il a pris congé de son beau-père, Jéthro, et s'est mis en route sans que son fils ne soit circoncis. C'est alors que Dieu l'a attaqué directement pendant la nuit à l'auberge. Exode chapitre 4, dès le verset 22 à 26. Alors tu diras à Pharaon, Exode 4, verset 22, « Ainsi a parlé l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Je t'en conjure, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Mais si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils premier-né. » Mais en chemin, dans la chambre de nuit, l'Éternel se jeta sur Moïse et voulait le tuer. Avez-vous tous entendu? Et voulait le tuer. Alors Séphora prit une pierre tranchante, s'en servit pour couper le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alors, il se retira de lui. En ce temps-là, elle disait l'époux de sang, en référence à la circoncision. Cela ne peut pas être fait ni dit plus clairement dans la parole de Dieu. Je l'ai mentionné hier soir. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 2 que notre Seigneur a été placé sous la loi et qu'il a été circoncis le huitième jour. Peut-être lisons-nous ici dans Luc, chapitre 2, du verset 22. Oui, on devrait en fait lire aussi le verset 21, mais vous pouvez le lire de vous-même. Pourquoi faut-il toujours lire le texte? Qui n'a pas de Bible ici? S'il vous plaît. On vient au culte avec une Bible pour être vraiment dans le sujet, dans la chose que chacun, que chaque verset auquel il est fait allusion soit lu ou non. Vous pouvez le lire, vous pouvez chercher, vous pouvez sonder à savoir s'il en est ainsi, pour savoir si cela est exact, si cela est écrit vraiment ainsi. Il est dit ici au verset 22, il faut avoir une Bible, au verset 22 de Luc 2. Luc 2, verset 22. Puis lorsque les jours prescrits par la loi de Moïse pour leur purification furent écoulés, ils montèrent avec l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout premier-né mâle qui vient au monde sera considéré comme consacré au Seigneur, etc. Et ainsi de suite. Il a donc été circoncis le huitième jour. C'est le jour où Simon est entré dans le temple et a pris l'enfant Jésus dans ses bras en disant, « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. » De quoi s'agit-il aujourd'hui? Aucun incirconcis ne pouvait s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons ensuite lu que dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de la circoncision du prépuce en chair, dans la chair, mais de la circoncision du cœur, en esprit, par l'esprit. Avons-nous tous compris cela? Une circoncision divine, en esprit, par l'esprit. Dieu envoie sa parole et sa parole est comme une épée à double tranchant. Elle transperce, elle remet les choses à leur place, elle corrige, elle sépare et rassemble ce qui va ensemble, sépare ce qui ne va pas ensemble. Dieu a tout ordonné de manière merveilleuse. Jésus, notre Seigneur, n'était pas juif. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il s'est néanmoins soumis à sa propre loi. Mais écoutez, si l'on avait traduit correctement les mots ici et pas seulement utilisé le terme « Seigneur », il devrait être écrit ici en fait qu'il a été consacré à Yahvé. Maintenant, le Seigneur est consacré au Seigneur, l'Éternel consacré à l'Éternel. L'avez-vous lu? Qui fait même attention aux choses de l'enseignement? Je pense que mes veines de l'enseignement sont si prononcées que beaucoup auront peut-être du mal à suivre tout cela. Ma veine doctrinale, non. Merci frère Knick, tu es un bon indicateur ici, devant. Mais nous voyons le plan de salut de notre Dieu dans l'harmonie biblique. Si quelqu'un nous disait aujourd'hui, vous devez observer le sabbat. Vous devez observer le sabbat ou vous faire circoncire. Nous pourrions simplement répondre, cela ne s'applique pas à nous. Mais si quelqu'un dit que par l'évangile de Christ, par la parole de Dieu, il doit y avoir un renouvellement, une nouvelle naissance, une circoncision du cœur, alors nous disons oui, oui et amen. Car il en est ainsi. Remercions Dieu de nous permettre de tout classer bibliquement. Venons-en au Nouveau Testament. Matthieu 26, verset 28. Ici, le Seigneur parle. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. Par là, Jésus ne faisait pas référence au vin qui se trouvait dans la coupe, car c'est bien le vin qu'ils ont bu. Après le repas de la Pâque, il y avait le souper. Et à Golgotha, ce n'est pas une coupe de vin qui a été versée. À Golgotha, le côté de mon Seigneur a été ouvert. Le sang a coulé, un sang saint, divin, a coulé là pour notre rédemption. Et si vous me permettez encore une fois cette remarque, je pense ainsi à la manière dont l'humanité est trompée, en particulier dans le christianisme romain. On y répète sans cesse que les éléments sont transformés, le pain et le vin sont sans cesse transformés. Oui, à quoi bon transformer le pain et le vin? C'est un repas de mémoire. Ce qui s'est passé à Golgotha s'est produit une fois pour toutes par l'offrande d'un sacrifice valable à jamais, valable pour toujours. Il s'est offert à Dieu une fois pour toutes. Maintenant, le pain et le vin n'ont pas besoin d'être transformés. Non. Non. Toi et moi, nous devons être changés par l'offrande de son corps et de son sang. Nous devons être transformés, changés. Il ne s'agit pas que quelqu'un vienne faire quelques signes de haut en bas pour que quelque chose se transforme. Cela ne change rien du tout. La transformation doit, le changement doit avoir lieu en toi et en moi. Cela aussi, nous l'avons souvent dit, celui qui attend la transformation du corps, le changement de son corps, doit avoir déjà expérimenté dans son âme la transformation, le changement. Le sang, la parole et l'esprit doivent avoir fait l'effet divin, opérer le changement divin en nous. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous avons seulement entendu la parole de Dieu. Qui a dans son cœur le désir profond que le sang versé à Golgotha produise en chacun de nous ce pourquoi il a été versé? Dites une fois Amen. Qui a le désir profond que la parole de vérité, l'évangile de Jésus-Christ, le plein évangile, accomplisse en nous tous ce pourquoi Dieu nous l'a confié? Dites une fois Amen. Celui qui a dans son cœur le désir que l'Esprit de Dieu, par le sang et la parole, veuille accomplir l'achèvement dans la troupe rachetée par le sang qui a reçu la parole. Dites Amen. Dites Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Accomplir la perfection. Non seulement, pas seulement que nous en parlions, mais comme Abraham l'a à l'époque, il agissait, il a pratiqué, il a mis en pratique le même jour, il a obéi. Nous agissons le même jour et disons Seigneur, nous ne sommes pas seulement ici pour entendre parler de Golgotha. Nous sommes ici pour ramener chez nous ce qui s'est passé pour nous à Golgotha, comme une expérience personnelle que nous faisons avec toi, une réalité divine expérimentée personnellement. Amen. Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. Ceci est le sang de la nouvelle alliance, non plus écrit sur des tables de pierre qui ce jour-là encore se fracassaient contre des montagnes, mais dans nos cœurs qui étaient en effet auparavant de pierre, mais qui se sont adoucis par la grâce de Dieu selon la parole de la promesse, qui ont été changés. Je vous ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur capable de ressentir. Qu'est-ce que ton cœur ressent, chère âme? Est-il de pierre? Non, sinon tu ne serais pas là. Je crois qu'il se passe quelque chose de très puissant en chacun d'entre nous, en ces jours et en ces heures, comme jamais auparavant. L'Esprit de Dieu commence à agir et à se manifester en profondeur. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Le Seigneur Dieu a conclu une nouvelle alliance en Christ. Permettez-moi de lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Il est écrit ici, du verset 28. Si quelqu'un a rejeté la loi de Moïse, Hébreux 10, verset 27, il doit mourir sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien plus sévère sera le châtiment, pense-t-on, de celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a tenu pour sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui s'est moqué de l'Esprit de grâce. Avez-vous de nouveau prêté attention au texte? Les personnes sanctifiées par le sang de l'agneau ont encore la possibilité de se moquer de l'Esprit de grâce s'ils ne comprennent pas que dans des grâces spéciales, Dieu vient visiter son Église. Combien de rachetés se sont heurtés à la parole révélée à cette époque? Ils disaient, nous avons Christ, nous avons la Bible, nous n'avons pas besoin d'un prophète. Oui, si nous avons Dieu et la Bible, alors Dieu dit dans la Bible, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrivent les jours grands et terribles du Seigneur. Si tu as Dieu et la Bible, alors tu as la parole révélée de Dieu. Avons-nous compris cela? Au jour de Jésus, ils avaient la Bible, ils avaient la Torah, ils avaient le Talmud, ils avaient beaucoup de choses, ils lisaient, mais ils n'avaient pas de révélation sur les versets, encore une fois. Et voici le verset 29, afin que nous comprenions parfaitement la gravité qui s'y manifeste. Combien plus sévère sera le châtiment, pense-t-on, de celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a tenu sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été justifié et sanctifié, et qui s'est moqué de l'Esprit de grâce. Dieu a inclus dans son plan de rédemption ceux qui devait être racheté. Et au fond, c'est à Golgotha que se trouve notre salut, notre justification, notre pardon, notre salut, la nouvelle naissance, la nouvelle vie, la sanctification, l'achèvement, la perfection. Tout a été rendu possible par Golgotha, par le sacrifice offert une fois pour toutes. Mais si des personnes ne font qu'un certain bout de chemin avec Dieu et ne veulent soudain plus continuer parce qu'elles ne comprennent pas tout à fait quelque chose, ce ne serait pas encore le pire s'ils ne commençaient pas à s'en moquer et à le railler, mais s'ils le laissaient là. Si nous ne comprenons pas quelque chose, nous devons le laisser. Mais nous ne devons pas nous moquer de l'Esprit de la grâce. On n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la visitation de grâce de Dieu? La grâce, c'est quand Dieu nous fait connaître ses voies. Moïse a prié, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Exode 33. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, il nous fait maintenant connaître ses voies. Mais si d'autres qui ont marché avec nous, avec qui nous avons assisté à des services divins, se moquent soudain de nous et disent, « Ah, c'est du fanatisme. » Là, vous êtes en train de suivre un homme. Je vous le dis très honnêtement. Je ne cours pas après un homme. mais je suis reconnaissant d'avoir reconnu le ministère destiné à cette génération. Et les paroles qui ont été promises pour cette époque. Et ainsi, je me suis rangé du côté de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous avons tous fait. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à nos frères et sœurs lors de la première venue du Christ? Combien de moqueries et de railleries ont-ils dû subir? Pourquoi la situation serait-elle différente pour nous aujourd'hui? N'est-il pas également écrit dans l'Épître aux Hébreux, sortons au-delà du camp et portons son opprobre? Combien de personnes utilisent le nom de Jésus pour accomplir de grands miracles au point que même les non-croyants s'étonnent et leur vient-on alors... Ou alors quand on vient à la véritable signification de ce nom pour le baptême, alors ainsi de suite, alors ils s'énervent. Puis ils éclatent de colère et disent, laissez-moi tranquille avec ce nom de Jésus. Quand ils sont sur la plateforme, alors ils disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et comme les gens croient, alors cela arrive. Les gens croient et cela se produit. Et quand on leur dit, si ce nom signifie tant pour vous, et est devenu si précieux pour vous, pourquoi ne vous laissez-vous pas, pourquoi ne vous faites pas baptiser, ne vous faites-vous pas baptiser en ce nom? Et là, c'est le tollé, c'est de l'hérésie, c'est faux, c'est ce qu'ils disent, c'est la doctrine Branham. Branham, vous l'avez tous entendu, hein? Oui, bien sûr, vous ne venez pas d'atterrir de la lune, vous êtes sur cette terre depuis longtemps. Non, c'est le Seigneur qui parle. Beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront à tes dix, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli en ton nom de grands signes miraculeux? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas cherché des démons? Et ainsi de suite. Il ne fait que regarder brièvement et dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Celui qui reconnaît le nom de Jésus doit aussi le confesser, se confesser en ce nom et aussi dans le baptême, se confesser à ce nom afin d'être enseveli avec lui et de ressusciter avec lui pour désormais marcher en nouveauté de vie. Dans le chapitre 9 des Hébreux, nous lisons encore les versets 11 et 12. Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ce n'est pas non plus au moyen du sang des boucs et des veaux, mais au moyen de son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a accompli une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste et qu'il a accompli une rédemption éternelle. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Ne me demandez pas comment cela s'est passé. Le matin, très tôt, alors que Jésus venait de ressusciter, il dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Mais va dire à mes frères. » Remarquez, le premier-né parmi de nombreux frères. Va et dis-le à mes frères. Lui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés ont un même Père. Il faut, je crois que je vous le lise encore, cela dans la parole de Dieu, afin que vous sachiez effectivement que cela est écrit ainsi. Oh, l'Épître aux Hébreux est unique dans ce sens, unique. Elle est unique ici. Ce sera probablement le cas. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, il est question ici du verset, dès le verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, après avoir conduit beaucoup de fils à la gloire, de mener à la perfection à travers la souffrance l'auteur de leur salut. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent du même Père, ou alors ont le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. De les appeler frères. Amen. Amen. Alléluia. Remarquez-vous ce que cela signifie? Lui, le commencement de la création de Dieu. Lui, le Fils engendré de Dieu. Et nous, les fils et filles de Dieu engendrés et nés de Dieu. Satan ne peut pas engendrer. Satan ne peut pas créer. Mais Satan s'est servi du serpent et est entré ainsi par, donc de cette manière dans le genre, dans la race humaine. Dieu est créateur. Dieu a engendré. Il a fait un nouveau commencement par l'engendrement. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création par engendrement, par la parole et par l'Esprit de Dieu. Cela ne peut pas être plus clair pour nous à partir de la parole. Celui qui guérit, celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés ont le même Père. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va dire à mes frères que je les précède en Galilée. C'est là qu'ils me reverront. Alléluia. Toute parole de Dieu, où qu'elle se trouve, où qu'elle soit écrite, elle a son droit d'existence. Et nous y croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. J'aimerais écrire encore une fois et mettre toutes ces vérités bibliques à la disposition du peuple de Dieu, comme sous la forme d'une encyclopédie, afin qu'ils puissent les classer divinement, si le Seigneur les aide. Parlons maintenant très brièvement du baptême, car il a été annoncé que l'on baptise. Pardonnez-moi. Romains chapitre 6, nous lisons ici le verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Car nous le savons, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps dominé par le péché soit détruit, pour que nous ne servions plus le péché comme esclaves. Car celui qui est mort est ainsi acquitté du péché, affranchi de tout droit du péché. Le baptême signifie en effet une alliance de bonne conscience avec Dieu, que seules les personnes dont la conscience a été réellement purifiée, qui ont vraiment trouvé la paix avec Dieu, qui peuvent dire, son esprit rend témoignage à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu. Qui peuvent dire cela, je sais que mon péché était rouge sang, mais que maintenant j'ai été lavé blanc comme neige par le sang de l'agneau. J'accepte ce qui s'est passé pour moi à Golgotha et je remercie Dieu de me l'avoir donné par grâce. Par grâce. Il faut en arriver à une acceptation personnelle du salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas l'adhésion à une église qui doit avoir été établie, mais le lien personnel avec Dieu en Jésus-Christ. Ce lien doit être établi en Jésus-Christ, notre Seigneur, avec nous. Si tu es ici aujourd'hui, cher cœur, et que tu es encore dans le combat intérieur, que Dieu te donne la victoire de Golgotha, que ta décision pourrait être prise aujourd'hui, à cette heure où Dieu nous parle par sa parole et par son esprit, comme ce fut le cas pour Abraham autrefois, lorsqu'il fit le même jour ce que le Seigneur lui demandait. Le jour de la Pentecôte, dans la même prédication, il a été dit en quelques versets, « Répentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous, répentez-vous de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, regrettez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, votre manière de vivre jusqu'à présent. Tournez-vous, répentez-vous, revenez à moi. Venez à moi, vous tous, extrémité de la terre, afin que vous voyez le salut qui vient de notre Dieu. » C'est ce que Ésaïe, le prophète, a annoncé. Vous êtes appelés, vous répondez à cet appel, et alors Dieu vous accueille. Il vous a déjà accueilli en Christ, à Golgotha. De son côté, le chemin est déjà parcouru. L'alliance est déjà là. Elle est faite, comme nous l'avons lu. Ne prenez donc pas cela à la légère. Laissez l'Esprit de grâce agir sur vous. Ne vous moquez pas de lui. Vous avez été appelés à être auprès du Seigneur comme propriété de Dieu, comme troupe rachetée par le sang. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la repentance. Laissez-vous conduire à la repentance, au repentir. Alors les larmes coulent et nous disons, Seigneur, quelle vie gâchée nous avons eue. Aie pitié de nous et accepte-nous. Forme-nous, transforme-nous selon ta volonté. Là encore, vous ne devez pas vous demander est-ce que je vais y arriver ou pas. Vous devez croire que Dieu l'a déjà fait avec vous, pour vous. Nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes, mais avec lui, nous pouvons tout faire. La première chose que doivent savoir ceux qui veulent se laisser baptiser aujourd'hui, c'est qu'ils ont reçu la grâce personnellement ou qu'ils ont accepté et reçu cette grâce personnellement. Selon la parole de l'Écriture, à ceux qui l'ont reçu, en grand nombre, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Croyez-vous en son nom? L'avez-vous reçu et accepté? Alors que tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus se fassent aujourd'hui baptisés bibliquement. Nous savons qu'en ce qui concerne Matthieu 28, verset 19, il a donné l'ordre d'aller dans le monde entier, d'enseigner toutes les nations et de faire des disciples dans toutes les nations, puis de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ordre de mission divin et originel. Mais nous remarquons déjà qu'il est question ici du nom par lequel Dieu, le Dieu de la Nouvelle Alliance, s'est révélé au peuple de la Nouvelle Alliance. Je m'appelle Franck parce que mon nom, mon père s'appelle déjà Franck et tous les autres aussi. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le nom du Dieu, unique et seul qui se révèle dans le ciel comme Père, sur la terre, dans le Fils et dans les croyants par le Saint-Esprit. Il est écrit, il les baptise au nom ou dans le nom. En grec, les deux ne font qu'un et signifient à la fois l'un et l'autre. On dit les noms au singulier et non les noms sur les noms. Si je demandais aujourd'hui combien font 3 fois 3, personne ne pourra me dire que 3 fois 3, c'est 3 fois 3. Il me faudrait alors la réponse. J'aurais besoin d'entendre la solution de cette question. Si quelqu'un demande quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne voudrais pas non plus qu'on me dise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après tout, j'ai posé une question. J'aimerais avoir une réponse à cette question. Que Dieu soit Père, nous le savons. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Que Dieu s'est révélé dans le Fils en tant qu'Emmanuel, nous l'avons reconnu et nous en sommes reconnaissants. Et que Dieu est venu dans l'Église par le Saint-Esprit à la Pentecôte, nous le savons aussi. Mais quel est ce nom? Quel est ce nom? Pierre l'a prononcé le jour de la Pentecôte et a crié à la foule des milliers de personnes, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ce n'est pas une contradiction, c'est la réponse biblique correcte à Matthieu 28. À Matthieu 28. Amen. Est-ce que cela tient une fois pour toutes? À 100%. Il ne peut en être autrement. Comme je me réjouis sur ce point aussi, que les deux, le devoir et la solution et la réponse se trouvent toutes deux dans les Saintes Écritures. S'il n'y avait qu'une seule chose, alors oui, alors mes genoux devraient trembler un peu, mais ce n'est pas le cas. Le fondement est clair et vrai. Alléluia, loué soit Dieu. Et le Seigneur a simplement voulu que dans les derniers jours, les enseignements bibliques soient remis sur le chandelier, remis, mis en lumière. Nous ne nous accrochons pas seulement à des lettres, nous nous laissons révéler la lettre par l'Esprit. Et nous voyons les liens dans les Saintes Écritures, les contextes. Celui qui n'a pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été baptisé au nom dans lequel Dieu s'est révélé pour notre salut dans le Nouveau Testament comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et Saint-Esprit. C'est aussi clair que cela peut l'être. C'est la pure vérité. C'est l'enseignement des apôtres. C'est ainsi que Pierre, Paul et Philippe ont baptisé. Et que chaque chose insiste. Et chaque sujet sont basés sur deux ou trois témoins. Ou quelqu'un a-t-il donc utilisé une formule? Ou trois gouttes d'eau? Oubliez la formule et oubliez l'eau. Venez à la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, et faites-vous baptiser selon la Bible. Le temps est venu de le faire. Ne vous moquez pas de l'Esprit de grâce. Ne le repoussez plus. Ne remettez pas ça à demain. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole. Acceptez-la aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne la ressentez pas comme une pression qui s'exerce sur vous, mais comme une parole puissante du Seigneur. Peut-être que le temps est si court que Dieu veut appeler les derniers à sortir, les rendre obéissants, les mettre sur ses traces, afin que nous puissions tous marcher d'un même pas, dans le même baptême, selon la parole de l'Écriture. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de qui tout est et devient et ainsi de suite. Tout cela ne fait qu'un. Un seul évangile, un seul message, une seule Église, l'Église des premiers-nés. Magnifique. Le dommage causé a été réparé à Golgotha. Et notre Seigneur a également prouvé par là qu'il n'a pas seulement désarmé la mort, l'enfer et le diable, comme il est écrit dans les Philippiens et les Colossiens, mais qu'il les a vaincus et qu'il est vainqueur et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Jésus est vivant et nous, avec lui, morts. Où sont maintenant tes terreurs? Il me ressuscitera aussi d'entre les morts. Il a déjà fait. Amen. Juste pour que vous puissiez le savoir. Il a déjà fait. Avec lui, tout n'est qu'une question de temps. La mort n'a plus rien à dire. Comme je l'ai dit hier, il n'y a qu'un ascenseur. C'est seulement un ascenseur qui nous transporte. Nous n'avons plus rien à craindre de lui, de la mort. Tout est accompli. Oh, nous voulons aujourd'hui remercier notre Seigneur pour cette clarté divine, pour le plan de salut de Dieu, pour la rédemption divine nécessaire, pour le nouveau commencement, pour le dernier, pour le deuxième Adam, pour l'engendrement, une nouvelle création, par engendrement, appelée à l'existence, selon la parole de l'Écriture. Ainsi, par l'Amen, le fidèle et le véritable témoin, le commencement et la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Nous sommes la continuation de cette création divine qui vit son achèvement ces jours. Alléluia! Gloire et honneur au Dieu vivant. Amen. Amen. Nous nous levons. Père céleste, tu as vu les cœurs et les mains. Tu nous as donné un soleil glorieux. Nous t'en remercions. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as bénis de la richesse de ta grâce. Nous voici, Seigneur. Ta parole est montrée plus claire que jamais, plus éclairée, plus sublime dans tous ces contextes. Seigneur, nous te remercions pour cela. Aussi pour tous les frères et sœurs qui t'ont consacré leur vie. Nous te remercions aussi de tout cœur et te demandons ta bénédiction. Seigneur fidèle, accomplis une circoncision sur nos cœurs, dans nos cœurs, une circoncision divine. Ô Seigneur, nous te prions, Dieu fidèle, de faire en sorte que cela se produise par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Nous te remercions pour ton action puissante en ces jours et te demandons de bénir tout cela au nom de Jésus. Amen.